Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième midi pédago de l'année, ici dans la salle du Belvédère. Ça fait plaisir de voir une salle remplie avec beaucoup de collègues, enseignants, ingénieurs pédagogiques, administratifs. Donc c'est donc une bonne année qu'on vous souhaite à tous. On va avoir aujourd'hui un midi pédago consacré à la question de la médiatisation. Donc, médiatisation de contenus pédagogiques scénarisés. Alors, pour rappel, les midi pédagos sont des temps de partage entre collègues, de partage notamment de petits sandwichs qu'on se partage ensemble, donc qui se suit ici en présentiel dans la salle du Belvédère tous les deuxièmes mardis de chaque mois à midi et demi, et qui peut être également suivi à distance. Et donc, on salue les collègues qui fidèlement nous suivent à distance et qui sont toujours nombreux et actifs. Il y en a certains d'ailleurs qui parfois suivent à distance et parfois arrivent à venir. Un temps de partage pour construire la communauté de pratique des enseignants, donc de prendre le temps de se poser des questions sur la pédagogie, quitte à parfois ne pas être d'accord, parfois à soulever des enjeux ou à soulever des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et puis parfois, pour pouvoir aussi promouvoir des expériences de collègues qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà réfléchi sur la question et qui souhaitent nous faire bénéficier de leurs idées, de leur avance, de leurs expériences. Pour traiter la question de la médiatisation, on va souffrir un petit peu des épidémies, malheureusement, parce qu'on a deux collègues qui devaient nous en parler et qui sont malheureusement pas avec nous. Et donc, on va avoir une modification de notre plateau. Benoît Hélène, qui est graphiste, et Anne Garnaveau, qui est développeur sur Moodle, voilà, ne sont malheureusement pas disponibles. Donc j'ai réussi à récupérer par la manche ce matin Janine Berthier, qui va également pouvoir nous en parler. Et puis, pour commencer, on va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter. Je vais laisser la parole.
Je ne sais pas si l'usage du micro est indispensable peut-être pour le...
Ouais, pour la distance.
Ça marche, ouais. Ouais, parfait. Écoutez, merci de m'associer à votre midi pédago. C'est le premier auquel j'assiste et en même temps j'y participe, donc c'est pas une expérience très très importante en la matière. Donc moi je suis Vincent Legrand, je suis maître de conférence en droit public dans cette maison depuis 15 ans et j'assure. Ma spécialité, c'est le droit de l'urbanisme. J'assure beaucoup d'enseignements en droit de l'urbanisme et de l'aménagement. C'est une matière qui est dispensée en 4e et 5e année dans les études de droit. J'ai mis en place une expérience, si j'ose dire, de formation en e-learning il y a maintenant peut-être 10 ans, un peu plus, ouais, 10-12 ans, sur les bons conseils de Janine, que j'ai plaisir à retrouver. D'abord dans un contenu purement diplômant, à raison d'un segment de quelques heures de cours qu'on souhaitait mettre en ligne pour des étudiants d'Alençon dans le cadre d'une licence pro métier de l'administration territoriale. Et puis très rapidement, on a ouvert un champ des possibles plus important vers des formations qualifiantes en formation continue. Et j'ai ouvert, grâce au CEMU, grâce à la fac de droit, un diplôme d'université totalement à distance au mois d'octobre dernier, qui donc fait ses premiers pas, et sur lequel, alors je ne sais pas si on doit entendre médiatisation comme diffusion ou si ça fait appel à des langages techniques qui m'échappent. Moi, j'ai habituellement toujours cette botte secrète de dire je ne comprends pas bien techniquement ce que vous essayez de me poser comme question. Et
bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je me présente, je suis Hugo Drouin, donc je travaille au CEMU et donc je suis motion designer, donc c'est de l'animation graphique, donc pour traduire des propos voilà, en schéma et puis en animation qui vont compléter ce qui est dit à l'oral en fait. Et puis, donc du coup, du cadrage, du montage et puis d'écriture, c'est-à-dire de la transformation d'un propos, d'un contenu de cours pour l'adapter au médium vidéo, quoi, on va dire. Voilà, transformer.
D'accord. Merci.
Et puis Janine Berthier, ingénieure pédagogique, et puis je suis en charge de l'équipe du CEMU, voilà, service d'appui à la pédagogie. Et juste dire que je vais quitter brusquement la table, parce que je dois être au campus 2 à 13h30.
D'accord. Et puis peut-être que le format sera plus sur un 13h15 qu'un 13h30. Voilà, on ne fera pas de remplissage inutile. Et donc la compétence liée à la médiatisation de contenu pédagogique scénarisé et donc la compétence 5 dans nos 6 compétences qui sont liées à l'activité du métier d'enseignant dans le supérieur, donc à côté de la question de l'agir éthique, de la conception, l'animation, l'évaluation des enseignements. Et puis avant de parler le mois prochain de la question de la réflexivité par rapport à sa pratique professionnelle, nous avions fait le choix avec tous les collègues qui avaient travaillé sur ce programme qui définissait les missions de l'enseignant à l'université de Caen-Normandie. On avait fait le choix aussi de parler de cette question particulière, de cette compétence particulière liée à la médiatisation, cette mise en discours de nos contenus pédagogiques. Alors Vincent a, à mon avis, pleinement raison, parce que médiatiser, c'est un mot qui n'est pas forcément très transparent. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le définir. Genre, je me tourne peut-être vers Janine, peut-être, qui pourrait nous en dire un mot.
Alors, médiatiser, ça veut dire... Alors, au départ, on peut peut-être parler de contenu pédagogique.
Oui.
Qu'est-ce qu'un contenu pédagogique? C'est évidemment, pour faire simple, une information qui va être transformée ou qui va être diffusée pour devenir un savoir ou une connaissance. D'accord. Et donc médiatiser un contenu pédagogique, ça veut dire médiatiser une information, à savoir, ça va être le transformer avec les outils numériques. Alors on parle aussi, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents médias. Alors par médias, on peut parler de la vidéo, on peut parler de l'audio, on peut parler du graphisme, on peut parler de l'interactivité, on peut même parler maintenant aussi de 3D, on peut même parler de réalité virtuelle. Et grâce à ces outils numériques, on va transformer. Donc on parlait beaucoup d'hypermédia. Et puis maintenant, on parle aussi de transmédia, parce qu'on peut très bien, pour un même contenu pédagogique, utiliser, mixer différents médias. Donc quand on parle de médiatiser, alors je ne sais pas si est-ce qu'on aborde tout de suite aussi cette notion de médiatisation-médiation, hein, mais la médiatisation, ça concerne vraiment le contenu pédagogique. Comment je vais, à partir d'une information, d'une connaissance, la transformer pour la rendre accessible différemment grâce aux différents médias.
Ça nous éclaircit. Et peut-être pour liquider la question de la médiation.
Oui, alors je ne sais pas si on s'appuie un petit peu sur... De toute façon, on ne peut pas trop dissocier médiatisation et en même temps tout ce qui traite aussi à l'hybridation. Parce que la médiatisation, ça, on s'appuie sur les travaux de recherche des équipes de Louvain, Marcel Lebrun, Charrier et aussi Peraya, qui a cette notion, travaille sur cette notion de médiatisation et médiation. Et les deux ne peuvent pas être dissociés. C'est-à-dire qu'évidemment, on va médiatiser des contenus, mais si la médiatisation ne se fait pas aussi, n'est pas liée à de la médiation, c'est-à-dire la médiation, c'est la relation pédagogique, bien ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que derrière de la médiation de contenu, il y a aussi la médiation d'un enseignant.
Qui n'est pas menacé de fait
non.
Par la médiatisation de son contenu, parce que son rôle n'est pas substitué par le contenu pédagogique médiatisé.
Tout à fait, et même jusqu'à dire que finalement la médiation, on va dire technologique, permet même de repenser la médiation, c'est-à-dire la relation pédagogique. L'objectif aussi, hein, maintenant, parce que l'intérêt de médiatiser, donc il y a bien cet intérêt de dire je vais diffuser, donc on parle d'enseignement hybride, je vais diffuser des contenus médiatisés, hein, si je prends l'exemple de la vidéo, donc je vais diffuser par exemple via une plateforme de formation. Hein, une plateforme de formation, c'est vraiment l'outil de base qui va permettre de faire de la médiatisation et avec de la médiation. Je vais faciliter l'accès à une connaissance. Pourquoi ? Parce qu'on ne médiatise pas pour médiatiser. Si on médiatise, peut-être Hugo tout à l'heure va intervenir, mais si on choisit de la vidéo, c'est pensé, parce que ça a une plus-value. Si je pense, si je mets de l'audio, c'est parce que ça a une plus-value. Si je mets de une animation, c'est parce qu'il y a une plus-value. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est aussi évidemment de faciliter l'accès, faciliter l'apprentissage des étudiants. Ça, c'est aussi la première raison pour laquelle on va médiatiser. Donc, faciliter l'accès à la connaissance, faciliter l'apprentissage. Et puis, si on est dans des modalités de formation en ligne, que ce soit hybride ou e-learning, c'est aussi le fait que ce soit médiatisé, ben, ça va aussi permettre l'apprentissage en autonomie, puisqu'on va donner accès à de la connaissance via la plateforme. Mais toujours avec la médiation qui fait qu'un contenu médiatisé, la boîte... utiliser de la 3D, de l'animation, ça a un sens que si il y a derrière la relation pédagogique qui va venir expliciter et donner du sens à ce contenu médiatisé.
Ça permet notamment, tu parlais de Daniel Perraya, de pouvoir mettre en perspective la caricature des fois qu'on a fait de ses propos, qui disait que pour que le contenu soit performant, enfin pour qu'un enseignement soit performant, il fallait avoir des supports numériques. Alors en fait, c'est plus complexe que ça. C'est des supports numériques, enfin des éléments médiatisés qui sont en lien articulé, travaillés par l'enseignant.
Et c'est vrai qu'on est dans une phase. Il faut reconnaître qu'il y a même une phase où on a surmédiatisé certainement. Hein, c'est-à-dire que voilà, on nous a dit, c'est vrai, il faut faire de la vidéo, donc on a fait beaucoup de vidéos. Nous, au CMU, par exemple, en ce moment, on prend du temps à chaque fois d'analyser le contenu, évidemment, d'analyser le contexte, d'analyser peut-être aussi en fonction du public cible, et on va choisir les médias adaptés en fonction de tous ces éléments-là, et puis aussi il y a certaines contraintes.
Alors peut-être revenir justement au moment un peu précédent, quand l'enseignant est dans la situation de se dire « bon ben, je veux médiatiser, à quoi doit-il penser ?» Je me tourne un petit peu, qu'est-ce que ça change de faire un cours en utilisant des contenus médiatisés par rapport à un cours...
Alors, si on parle de ma matière, moi j'ai un rapport avec ma matière qui est donc le droit de l'urbanisme qui est un peu particulier. Puisque c'est une matière que je détestais quand j'étais étudiant.
C'est-à-dire
que
quand
on me l'a, non pas proposé, quand on m'a obligé à l'enseigner, puisqu'il s'agit bien de ça, au sein de cette maison, on ne choisit pas ses cours. À l'époque où j'ai été recruté, on ne choisit pas ses cours. On se trouvait en fait dans une répartition de cours après avoir été recruté, qui laissait aux professeurs, avant les maîtres de conférence, choisir leurs cours, et ensuite dans l'ordre de l'ancienneté, ce qui fait que quand on est le dernier maître de conférence à être rentré, ben, on prend les cours que les autres ont bien voulu vous laisser. Et donc, moi, j'avais très mal vécu le cours de droit de l'urbanisme que j'avais suivi, parce qu'il m'avait semblé extrêmement aride, très technique, très terre-à-terre, c'est le cas de le dire, alors que j'avais à l'époque des aspirations de jeunesse vers les méandres de la théorie politique, du droit constitutionnel, etc. Quand je l'ai assumé, ce cours, je me suis dit, il faut absolument que je l'enseigne de manière à pouvoir... le dispenser. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'enseignant, qui à l'époque était un enseignant remarquable que j'ai beaucoup apprécié dans d'autres disciplines, mais la matière, elle, me posait problème. Et donc, il fallait que je la rende vivante, au sens propre du terme. Et la rendre vivante, c'est pas forcément y apporter du son ou de l'image, mais c'est au moins y apporter des éléments de compréhension opérationnelle, technique, qui, dans le cadre d'un cours magistral très théorique... est dispensé sur au mieux un rendu papier ou un rendu textuel qu'on remet à la disposition des étudiants n'aurait pas fonctionné. Donc je me suis dit qu'il fallait que je limite la distance de la théorie à la pratique en apportant énormément d'éléments pratiques. Or, la chance que j'ai dans le même temps, c'est que c'est une matière qui se prête très facilement à la médiatisation. Énormément d'images, beaucoup d'interlocuteurs... voilà, on peut aller sur le terrain, on s'est beaucoup promené avec les vidéastes du CMU sur le terrain, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc ça a été un moyen pour moi d'apporter une valeur ajoutée dans mon enseignement, qui m'a d'abord donné beaucoup plus envie de l'enseigner, et qui ensuite m'a permis de donner un contenu plus opérationnel. Donc ça, en termes de compréhension de la matière, c'est essentiel, puisque en quatrième ou cinquième année, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une matière qui est dispensée tardivement dans le cursus. Les étudiants, très vite ensuite, sortent sur le monde du travail. Et c'est là où souvent ils se rendent à l'évidence du décalage, hein, c'est un grand classique, entre ce qu'on leur dit, ce qu'on leur apprend et ce qu'ils font dans la réalité. Donc mieux on les prépare, mieux c'est. Et donc plus on va les confronter à des opérateurs, à des montages, à des images, plus c'est facile. Donc il faut aussi savoir tirer parti, ce que dit Janine à juste titre, de l'intérêt de ne pas utiliser l'image ou les médias de manière trop systématique, parce que sinon on aurait fait énormément d'interviews, on aurait pu faire énormément de sorties. Mais tout cela sert-il vraiment le contenu pédago? Pas forcément, et donc il a fallu faire un équilibrage, mais très vite, moi j'ai conçu l'enseignement grâce à ce média. C'est-à-dire que je n'ai pas enseigné matière que j'ai décidé ensuite de médiatiser, j'ai en fait conçu la façon dont j'allais l'enseigner grâce à la médiatisation. Et ça, ça m'a donné d'abord un peps pas possible pour pouvoir l'enseigner, parce que sinon je pense que je l'aurais déjà redonné à quelqu'un d'autre. Or, ça fait 12 ans que je l'enseigne, parce que je l'enseigne de cette façon-ci. Donc c'est un élément qui m'a permis très vite de comprendre. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails techniques sur comment on utilise la vidéo, comment on utilise l'image, à quelle fin. Mais dans un premier temps de formation en e-learning, on a un peu laissé les contenus multimédia, c'est-à-dire vidéo, de côté. C'est-à-dire qu'on les a souvent considérés comme étant un plus, une espèce de valeur ajoutée, autrement dit, une sorte de cerise en disant bon voilà, si vous êtes capable d'apporter un degré d'investissement sur la plateforme, vous pourrez jouir d'un contenu multimédia qui est d'entendre parler un opérateur. Mais d'abord, il faut vous cogner l'affiche, le diaporama et tout ça. Bon, et on s'apercevait que la lecture des vidéos en souffrait et que finalement, l'intérêt pour les vidéos était parfois aléatoire. Maintenant, on les intègre complètement. Donc, j'ai quasiment deux tiers des fiches que je propose, dans le cadre donc des contenus que je propose, des onglets vidéo où on a... Alors, les formats vidéo doivent être travaillés, hein, de 2-3 minutes maximum. Finalement, derrière le rappel d'une règle, puisqu'il s'agit quand même essentiellement de cela, un opérateur qui vous dit que, bah, par exemple, il ne s'en sert pas. C'est quand même une valeur ajoutée extraordinaire. Alors, on ne met pas la vidéo avant le contenu textuel, oui, parce qu'évidemment, la fiche en souffrira. Mais quelqu'un qui vous dit, par exemple, un magistrat qui vous dit, bah, moi, le référé suspension, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir du point de vue d'un requérant à dire suspendez tel acte, bah, un permis de construire, par exemple, parce que je l'attaque, parce qu'il est illégal, il ne faudrait pas que la construction soit terminée quand le permis va être annulé. Bah, en réalité, le magistrat vous dit, bah, en fait, j'en vois pas parce que quelqu'un qui a un permis qui le voit attaquer, bah, de lui-même, ne va pas engager les travaux. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce contrepoint. Moi, j'estime qu'en tant que formateur, je mets à plat la matière et que derrière, ce type de témoignage permet de donner un relief que moi-même, je n'ai pas de légitimité à apporter. Donc ça, c'est sur le contenu vidéo, ça me semble être important de médiatiser en faisant en sorte que des gens qui seraient disponibles une fois dans l'année pour pouvoir venir dire en 2 heures dans un séminaire, voilà comment ça se passe, puissent au bon moment dans le cadre du cours venir prendre cette petite parole et on le fait grâce... à Eric Olivier qui effectivement permettent de sortir des cellules ou des capsules qui sont de 2 à 3 minutes permettent vraiment d'apporter une valeur ajoutée importante.
Et ce que j'entends, c'est qu'en fait la vidéo dans le système où c'est juste un plus qui vient à côté, la vidéo n'était pas tellement utilisée, suivie, regardée, voire. Donc là maintenant qu'elle est dans un contexte scénarisé et qu'elle arrive vraiment au moment signifiant, là, les apprenants, les étudiants, les regardent davantage.
Mais c'est aussi une question d'appropriation de la part du formateur. C'est-à-dire qu'en fait, ces vidéos, elles sont tournées sur une demi-journée quand on va voir un interlocuteur qui se prête à l'exercice pendant une heure. On coupe au montage un certain nombre de questions et de réponses. Et puis derrière, il faut savoir utiliser ces éléments pour larder le cours de niveau d'intervention intéressant. Ce qu'on n'avait pas fait dans un premier temps, et ça, je pense que c'est de ma responsabilité, que d'avoir laissé dans un premier temps ces contenus multimédia en plus comme étant un plus. En réalité, ils sont vraiment indissociables maintenant au contenu de formation.
Peut-être dire un mot, Hugo, par rapport à... Là, on parlait des médias, du média vidéo. Justement, la question du choix, se dire, j'aimerais bien prendre le bon, mais qu'est-ce qui fait qu'on va basculer sur un son ou une image animée? Qu'est-ce qui va... Et puis peut-être donner un exemple.
Par exemple, tout ce qui va être... Là, on parlait en fait de finalement d'une complémentarité en fait entre la, la théorie et puis ce qu'on va pouvoir donc on va pouvoir se projeter dans, en fait, dans, dans le réel. Par exemple, une situation particulière, un chantier, on va avoir une avec les images, on va pouvoir se rendre compte directement de la situation, même si c'est des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas décrites par l'enseignant. Et donc, par exemple, dans des cas de situations pratiques, là, ça va être beaucoup plus pertinent d'aller les illustrer avec des images sur le terrain ou dans le, pour des, je pense aussi à des gestes techniques, des gestes médicaux. Il n'y a rien de plus parlant que de voir le geste se faire, même s'il est appuyé derrière par voilà, par la précision de l'intervenant, qui veut dire voilà, là ce qu'on fait c'est ça, mais comment ça se passe, y a, on ne peut pas le voir autrement que le réaliser autrement que qu'en le voyant à l'écran. Et puis alors pour les tout ce qui va être animation graphique, ça, ça va plutôt se prêter à l'appui, en fait, pour se représenter visuellement un schéma qui va être assez, finalement, assez compliqué, assez laborieux à expliquer en des phrases interminables, tandis qu'un schéma qui se voit en un plan ou en deux, et puis, comment dire, qui se construit progressivement sous le regard de, du spectateur, c'est-à-dire qu'on voit les connexions entre les différents points du schéma. Je n'ai pas de, d'exemple comme ça qui me vient, mais sur des fonctionnements, sur des choses qui sont finalement assez abstraites, je pense à des organigrammes, ça c'est des choses qu'on va avoir du mal à traduire autrement que par des cases ou des animations. Qui se suit, enfin tout ce qui va finalement pas pouvoir être filmé. Voilà, l'animation graphique, on va pouvoir montrer, passer par des personnages animés, ça va avoir le même rôle qu'une situation qu'on aura filmée. Par contre, pour des choses abstraites, on n'a pas d'autre choix finalement que de. Enfin, pour gagner du temps, parce que l'objectif finalement, toujours, c'est de gagner du temps. Pour l'apprenant, à partir de plusieurs pages de texte, en étudiant précisément la complémentarité qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que le cerveau peut à la fois écouter un propos absorber des informations qu'il va voir, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre l'audio et l'image. Là, dans ce cas-là, on peut gagner vraiment du temps. Et, ça, le...
et est-ce qu'il existe des cas de figure où on n'a besoin que du son? Parce que je vois l'intérêt du coup de l'image.
Dans les cas où on n'a rien à montrer. encore que, non, si mais vous écoutez...
Le choix des médias, il est... Au départ, enfin, il y a deux niveaux. Dans le titre de la table ronde, il y a bien cette notion de scénarisation. Donc il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'on travaille. Le contenu médiatisé, déjà, il est intégré à une activité d'apprentissage. Oui. On va travailler avec l'enseignant ou l'enseignant va travailler. Au départ, il y a un objectif pédagogique, un objectif d'apprentissage. Après, il y a du contenu. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est lui l'expert, il va amener le contenu. Comment on travaille avec eux? C'est-à-dire que l'enseignant, il vient avec son contenu. Et nous, le travail des experts là, de l'équipe CEMU, c'est de se dire ce contenu, comment on va pouvoir le traduire pour qu'il facilite, facilite le travail, l'apprentissage de l'étudiant. Et c'est là où, c'est en décryptant, on va jusque dans certaines médiatisations, on va jusqu'à faire un storyboard. Un storyboard avec, d'un côté, les petits dessins de l'écran. À l'écran, il y aura ça. Ce sera peut-être sous forme vidéo. Là, peut-être que ça sera que de l'audio. Là, peut-être que c'est de la 3D. Il y a vraiment un travail où on va décortiquer à partir de l'objectif pédagogique et du contenu, quel est le média qui est le plus approprié. Alors, l'audio, c'est vrai qu'on a eu tendance un peu à écarter l'audio, alors qu'il y a quelques années, on l'utilisait beaucoup, mais d'une façon qui serait plus acceptable maintenant, c'est-à-dire que, au CEMU, avec CTU, par exemple, il y avait des cours à distance qui étaient qu'en audio, c'est-à-dire que l'étudiant, il s'écoutait 2 heures de cours. Ça, par exemple, à un moment, on a dit stop, c'est plus possible, parce qu'on le sait très bien, maintenant, c'est les étudiants, et ils recherchent, les étudiants et peut-être tout le monde, hein, on recherche des formats courts, on recherche la variété de formats. Donc on a un peu abandonné l'audio, sauf en support, hein, par exemple d'un sens qui a été vraiment, il y a 10 ans on avait commencé, et maintenant c'est beaucoup utilisé, on a fait beaucoup le diaporama animé commenté avec toi. Et là on avait, du coup l'audio était plutôt utilisé comme un complément, était cette notion d'hypermédia, transmédia. Et puis là en ce moment on est en train de mener une réflexion en se disant mais... On néglige le format audio. On voit bien tout ce qui se passe autour des médias, avec les plateformes de podcast. Les étudiants nous disent, par exemple, on a beaucoup, en ce moment, on privilégie beaucoup le diaporama animé commenté. Alors pourquoi on le privilégie aussi, hein? Parce que pour un enseignant, en général, l'enseignant, il arrive avec son diaporama. Il actualise son cours, c'est le diaporama. Donc c'est vraiment que c'est intéressant. Nous, on a mené une réflexion en disant... C'est important de trouver des médias qui soient associés à ce diaporama parce que c'est quand même l'outil un peu de base pour l'enseignant. On se rend compte que les étudiants, on leur a mis à disposition diaporama, animé, avec l'audio. Et ils nous ont dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir que l'audio ? Mais pourquoi ? Parce que ils sont dans les transports avec leur smartphone et ils écoutent. Ça y est, maintenant, il y a eu une grande. Ils sont très évidemment vidéo, hein, les jeunes. Par exemple, on pourrait juste citer une étude qui a été faite il y a quelques années avec la génération Y et la génération Z. Pour faire simple, je sais pas, génération Z, c'est les jeunes qui ont un peu moins de 23 ans. C'est ça, Mathieu, tu veux dire ? Y, c'est entre plus 24. Et là, il y a une étude qui a été faite. Finalement, la génération Z, hein, on va dire les plus jeunes, eh bien, je crois que c'est à 63%, ils privilégient le format vidéo. Alors que la génération Y, c'était à l'époque la lecture. Donc on voit bien quand même qu'il y a une modification aussi des profils d'apprentissage des étudiants. Et les podcasts, on se rend compte, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, enfin moi j'ai des enfants de cette génération un peu entre X et Y, eh bien ils vont aussi de plus en plus sur les podcasts audio. Donc c'est vrai que nous, il faut aussi qu'on se pose la question et qu'on se dise comment on peut traiter, scénariser un contenu avec de l'audio.
Bah, juste pour l'audio, en langue vivante, c'est voilà, absolument indispensable. Donc, quand faut-il faire de l'audio quand on a à traiter des compétences de compréhension ?
Mais pas que.
Ça permet vraiment là, c'est indispensable, ça fait partie des compétences à acquérir. Donc là, il y a tout un tas de moyens. Et je pense, en termes de médiatisation et de didactisation, à quelque chose qui se fait sur un site allemand, qui est l'équivalent de RFI, par ailleurs, qui est la Deutsche Welle, où ils font ils ont beaucoup de contenu didactisé et ils font notamment les nouvelles, les actualités lues lentement. Et donc ça, c'est un podcast, c'est un format audio qui est vraiment très très adapté à de la médiatisation. Enfin.
A contrario, je crois que c'est plus de 70% des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont regardées sans le son.
Oui. Sans le son.
C'est à peu près ça le ratio. Ouais.
Dans le choix des médias, l'audio peut aussi être une alternative, par exemple, pour les étudiants en mobilité. Parce qu'on sait que la vidéo, elle est compliquée à charger, etc. Et beaucoup d'étudiants, notamment à Paris, mais pas que, finalement, ils passent une heure dans les transports en commun le matin, une heure le soir. Et l'audio est assez intéressante là-dessus.
Alors, je vais me faire la voix de Dan Garnavo, qui n'est pas là, mais en plus, ça a l'avantage parfois d'être plus léger en termes de taille. Et on a des fois le désavantage de charger les serveurs avec des quantités de mégas de données vidéo, alors que parfois, justement, c'est intéressant de se poser la question si c'est... Donc, pour aller un peu dans le technique, qu'est-ce qu'on utilise comme outil parce que là, je suis convaincu, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on a comme outil à disposition pour se lancer ici? Comment ça marche, peut-être ou comment ça s'est passé
Alors, on a multiples outils. Moi, l'essentiel de ma formation, elle est basée d'abord sur des diaporamas sonorisés, donc images, animations et sons. Ce qui me semble en termes de vertu pédagogique le must, c'est-à-dire que Enfin, j'entends qu'on puisse avoir des temps de disponibilité, des interstices dans lesquels on puisse tirer parti du temps perdu. Il y a des gens qui écrivent très bien que maintenant les journées durent 36 heures et plus 24 heures, parce qu'on arrive à faire chevaucher plusieurs activités en même temps et que les temps sont donc démultipliés. Mais suivre un cours, alors, qui plus est un cours de droit entre deux rames de métro uniquement en audio, moi ça me semble assez aléatoire. Donc je pense qu'il y a des temps d'apprentissage, de prise en charge de contenu pédagogique qui supposent une capacité à effectivement être totalement à son affaire. Et là, de ce point de vue, moi, j'observe que les diaporamas sonorisés fonctionnent bien, pour peu qu'ils soient bien animés et qu'ils correspondent bien à ce qu'on appelle un diaporama. C'est-à-dire, je me souviens qu'entre les premiers que je produisais et ceux que je produis maintenant, c'est-à-dire que s'il y a trois lignes de texte, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'usage d'une animation graphique à part entière. Mais hier, j'ai eu un message sur le forum de ma formation où quelqu'un me dit « Mais alors, la diapositive 17 du diaporama 4 de la formation, il n'y a pas de son. » Ben oui, parce qu'il y a deux alinéas simplement qui sont mentionnés. Moi, je n'ai pas estimé qu'il y avait matière à les lire. Mais ça, on voit qu'en réalité, il y a une appétence pour avoir un commentaire son derrière. Sur l'usage du son proprement dit, unique, sans rapport à l'image, moi, j'observe que ça marche très bien sur la restitution de webconférence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des questions qui sont posées, moi, ça arrive, hein, les gens... 48 heures, un peu plus, 72 heures avant une webconférence de bilan d'une formation, adressent leurs questions. Et ils n'ont pas besoin de se mettre dans un format vidéo pour me voir répondre à leurs questions, ni dans une animation. Ils ont juste besoin d'entendre ce qu'on leur répond. Et là, ce média-là marche très bien. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à la rigueur, on ne multiplie pas les webcams de tous les interlocuteurs. Moi, je prends les questions, j'apparais, c'est plus facile pour moi de répondre. Mais je pense que mon image disparaissant, ça n'aurait aucune incidence.
Peut-être préciser une webconférence enfin, ce que c'est ou l'usage que
tu peux même dire classe virtuelle.
Oui, voilà,
au-delà de la web conférence.
C'était pour les.
La web conférence, c'est juste un système, voilà, bon, d'échange via Internet. Alors que
ma deuxième question, ouais, c'était pouvoir faire
mais
la
c'est
distinction.
C'est pour ça que je veux m'en aller. La classe virtuelle. Enfin, non, mais c'est vrai qu'en
mais moi, je ne parlerai plus une fois que Janine sera partie, parce que vous voyez bien que je dis n'importe quoi.
Non,
je n'ai pas les langages techniques.
Non, mais c'est vrai que l'exemple du cours, vraiment de droit de l'urbanisme avec Vincent, il y avait aussi dès le départ, on a beaucoup utilisé la classe virtuelle, c'est-à-dire que tous les mois, tu faisais un temps synchrone avec les apprenants, vraiment, et la classe virtuelle, c'est-à-dire une classe virtuelle, c'est comme si vous faisiez un cours en présentiel, mais vous le faites sur un environnement virtuel qui est une plateforme de diffusion de webconférence, et on peut faire la même chose que qu'on fait un cours en présentiel, c'est-à-dire vous partagez un document comme vous partagez un document en présentiel, vous pouvez interagir en tchatchant, vous pouvez aller sur le web, vous pouvez partager tout type de médias, vous pouvez même partager votre écran, vous pouvez même faire travailler sur certaines solutions les étudiants en atelier, en groupe, très bien aussi, alors nous on l'utilise, je te laisse la parole après, mais je finis, puis j'en vais, l'utilise dans des dispositifs de formation à distance. On organise des temps synchrones présentiels, des séminaires, mais tous les étudiants ne peuvent pas venir. Et lors de ces temps, ces séminaires, il y a des étudiants qui vont travailler, des étudiants en présentiel qui vont travailler avec des étudiants qui sont à distance via le système de classe virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut organiser des ateliers en mixant des étudiants qui sont à distance et des étudiants qui sont en présence.
Oui, donc c'est des temps synchrones dans lesquels les étudiants peuvent interagir, mais comme ils sont parfois 20 face à moi, si j'ose dire, ils ne peuvent pas tous s'exprimer par webcam interposée, mais ils ont l'occasion de poser leurs questions. Et donc, le fait est que la plupart d'entre eux écoutent plus qu'ils ne regardent ce qui se passe à l'écran. Et c'est un temps qui est très apprécié, puisque c'est un temps collectif. C'est-à-dire qu'on a, moi, sur la formation, 8 mois de formation à part entière, 8 mois, 8 séquences mensuelles. Les étudiants se parlent peu ou échangent peu entre eux, mais là, c'est un moment, effectivement, d'échange qui crée un esprit communautaire très fort dans le cadre de la formation, au-delà du forum, qui est, lui, purement écrit, par exemple, mais qui fonctionne bien de ce point de vue-ci. Donc, l'apprentissage par le diaporama sonorisé, ça, je pense que... sauf à ce qu'on prouve le contraire, et ce qui est très important dans la relation que moi, j'entretiens avec des techniciens, au sens noble du terme, c'est qu'ils sont capables de me dire, bon, on voit ce que tu fais, mais on pourrait peut-être t'aider à faire en sorte de faire quelque chose de mieux, ou du de domestiquer un nouvel outil ou un nouveau logiciel. Et il faut toujours savoir se remettre en cause. Ça, c'est un peu fatigant.
Oui, un peu. Voilà. Oui, mais Vincent a vécu l'évolution des, des solutions technologiques.
Voilà, donc on a fait ça sous Xe-Learning, par exemple, qui est un logiciel super complexe. C'est-à-dire qu'il fallait que je rentre mes données et quelqu'un du CMU validait et encapsulait. Donc dès qu'il y avait une modification, on était deux à se tenir la main, un peu comme les évadés par les mêmes paires de notes, si j'ose dire, à devoir travailler ensemble. Et du point de vue de l'intervention sur la plateforme, c'est extrêmement... extrêmement contraignant. Mais l'échange, il est décisif. C'est-à-dire que moi, l'idée... Ben, maintenant, ça fonctionne bien. C'est-à-dire l'idée que j'ai du contenu que j'ai à transmettre me permet d'aller voir ou de solliciter des agents, vidéastes, preneurs de son, graphistes, etc., en disant, j'aimerais arriver à ce contenu-là. Et on le voit bien, ça marche quand tout le monde, y compris pas seulement l'intervenant, est capable de mettre à disposition ses connaissances et les outils donc, que chacun peut maîtriser de son côté, même si c'est le formateur qui, au bout du compte, sait quels sont les attendus pédagogiques. Aujourd'hui, je vois bien qu'en 10 ans de formation à distance, moi, j'ai complètement changé. Et qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout, par exemple, en présentiel. Enfin, j'interpelle mes collègues. La médiatisation, c'est bien. Par contre, passer une vidéo dans une salle, même un amphithéâtre, auprès d'étudiants, même de 3e, 4e, 5e année... La plupart d'entre eux vont utiliser leur smartphone pendant le même temps parce qu'ils ne sont plus dans un temps où ils pensent qu'il y a de l'apprentissage. C'est vraiment une espèce d'illustration.
Y compris sur une vidéo courte.
Y compris sur une vidéo courte.
Le même magistrat qui dit que ça ne sert à rien, mieux vaut que ce soit l'enseignant qui le dise.
J'ai une espèce de segmentation. Alors peut-être que j'ai face à moi des étudiants qui, comme moi, sont juristes et peut-être un peu fermés sur des cadres en disant « ici, c'est important, là, on sort du cours ou de l'apprentissage proprement dit ». Mais je rencontre des vraies difficultés à tirer parti des contenus multimédia en salle.
Juste à moins que ça soit vraiment en lien ou... Non, prendre la question.
Oui, c'est pas une question, c'était plutôt une remarque. Ouais. C'est que quand on voit justement le témoignage de Vincent et puis ce que disait tout à l'heure Janine, on voit bien que médiatisation et médiation, c'est la médiation qui fait la médiatisation et pas le contraire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une visée pédagogique et après... On sait comment on la met en œuvre avec la médiatisation qui convient, mais ce n'est pas une échelle de valeur des médias, la vidéo commentée, l'audio, l'image, le texte qui fait le show. Par exemple, si vous voulez passer un contenu ou un contenu pédagogique à des étudiants pour leur expliquer un argumentaire, un texte est très très bien fait pour ça, parce qu'il y a des connecteurs argumentatifs, ça peut tout à fait bien le faire. Une carte mentale peut aussi tout à fait bien le faire. S'il est question de travailler la prononciation en langue, Elsa l'a dit tout à l'heure, le son est absolument évident. Et ça me rappelle un collègue qui m'avait fait la remarque, il m'avait dit « explique un jour à quelqu'un comment faire un nœud ». Eh ben, tu verras que tu as besoin de la vidéo. Parce que, évidemment, l'expliquer dans un texte, ça va être un peu compliqué. Sauf à prendre des métaphores, genre le nœud de chaise, le serpent qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre. On invente une histoire, mais c'est autre chose. Donc, il n'y a pas une échelle de valeur des médiatisations. Il y a une échelle pédagogique des médiations qui requiert les bonnes médiatisations. C'était absolument pas une question, pour le coup.
Pendant que j'y pense, au niveau des questions, s'il y a nos collègues à distance auxquels on pense en permanence, parce que moi qui se sentent exclus, peut-être Hugo revenir sur les choses, les éléments que les enseignants peuvent éventuellement rater ou sur lesquels ils ont besoin d'avoir un soutien. Technique. Quelle est la plus-value moi, ça m'arrive des fois de faire des vidéos dans mon garage avec mon éclairage et autres. Enfin, qu'est-ce que l'appui d'une équipe technique apporte
Déjà, à ressembler à ce que au type de vidéos qui sont consommées par ailleurs par les études, par des apprenants. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où l'image est absolument partout et on est malgré nous habitué à certains standards, on va dire, en termes de qualité audio. C'est vrai que si vous entendez si vous tombez sur un contenu sur Internet ou même à la télévision, vous pouvez vous rendre compte très rapidement si l'audio est mauvais ou si l'image est mauvaise. Bah ça va vous faire décrocher de ce qu'il dit. Donc c'est important d'avoir de soutenir quand même un niveau de qualité qui en fait fluidifie complètement, qui fait oublier parce qu'on fait de la vidéo, mais on est censé faire oublier qu'il y a une caméra, on est censé faire oublier qu'il y a une équipe technique et que tout a été pensé et tout ça. Enfin, le but du jeu, c'est d'oublier le cadre technique pour justement se concentrer uniquement sur ce qui est dit et le recevoir sans s'en rendre compte en fait finalement, j'ai envie de dire.
Et les enseignants sont des bons acteurs. Est-ce que c'est la même chose en fait de parler à une salle que de parler devant une caméra?
Non, c'est deux choses différentes parce que quand on est, instinctivement, je suis pas enseignant, mais parler devant des gens, on se rend compte tout de suite qu'ils sont là, tandis que vous retrouvez devant une caméra, ça crée une distance tout de suite. On se rend pas forcément compte qu'on parle à quelqu'un et on va peut-être plutôt avoir l'impression qu'on parle éventuellement à l'équipe technique, ce qui peut être ou alors au prompteur qu'on fait. Alors le prompteur, par exemple, aide énormément à gommer des hésitations. Ça donne une impression de spontanéité, mais ça peut avoir certains écueils, c'est-à-dire par exemple celui où on a l'impression, on voit clairement que l'enseignant lit. Ce que j'aurais tendance à préconiser, c'est vraiment de s'imprégner complètement de son propos pour pouvoir se détacher au maximum de toute béquille possible. C'est-à-dire que la vidéo, ça permet aussi de faire des coupes, de se reprendre à plusieurs fois. On peut se tromper, on peut se reprendre jusqu'à ce que le ton soit bon et qu'on laisse pas la place à la maladresse en fait, parce que la maladresse, ça peut être détecté tout de suite par celui qui va visionner le média et puis éventuellement à se focaliser là-dessus sur un détail, sur un truc sur le costume, enfin je dis n'importe quoi, mais quelque chose qui pourrait perturber l'apprentissage quoi. Ouais.
Ouais. D'accord. Peut-être sur la question du en attendant que le micro arrive, parce que parfois on peut être amené à faire des choses de qualité variable.
Cette quête de perfection, elle est dangereuse aussi un peu, parce qu'on perd en spontanéité, etc. Fait de crocher un peu dans une vidéo, des fois, il faut le laisser plutôt que refaire une reprise. Quoi, parce que, effectivement, il y a des formats aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont bons d'ailleurs? Enfin, on est habitué à, mais est-ce que c'est les bons? Je n'en suis pas convaincu. Les formats tuto, des youtubeurs, il y a des fois, ça peut être un petit peu fatigant aussi. Je me permets de nuancer un petit peu le propos.
Oui, c'est ça. Justement, il ne faut pas se transformer. C'est ce que je voulais dire au départ. Il ne faut pas se transformer en présentateur. Il faut vraiment s'imprégner de son propos pour pouvoir le restituer le plus naturellement possible. Justement, quand je parlais du prompteur, quand on rédige un texte, on a tendance à pas forcément se projeter dans la version, son oralité. En fait. On va pas se rendre compte qu'on va se dire « Ah bah c'est très bien écrit ce que j'ai fait, j'ai des belles phrases très bien construites ». Sauf qu'on parle pas du tout comme ça, ni dans un amphi, ni dans une conversation. Donc c'est pour s'imprégner. Souvent, l'interview, dans quelques cas, est pas mal. C'est-à-dire qu'on ne pose pas nécessairement une question précise. On a tendance plutôt à amorcer une partie du propos. Et après, a priori, si l'intervenant a bien révisé ses points, en fait, c'est les points qu'il va aborder, ça va couler tout seul, ça va s'enchaîner. Et puis, auquel cas, si on s'en mêle trop, on reprend. Mais le but, c'est de garder un maximum de spontanéité, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un présentateur météo en face de soi. Quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Quoi.
Oui.
Avec tout le respect dû au présentateur météo, naturellement.
Et puis, il y a parfois des qualités qui sont peut-être variables quand on a des supports qui sont destinés à être vus, des supports qu'on stabilise sur plusieurs années. C'est pas la même chose qu'une petite vidéo qu'on va faire juste qui n'aura d'intérêt que pour la semaine où elle va être produite. Il y a peut-être aussi des fois l'idée du jetable et du pérenne.
Ouais. Alors d'une année pour l'autre, on se rend compte que il y a le souci de l'actualisation des ressources vidéo. C'est-à-dire qu'il faut penser à ménager dans la construction de, on va dire, du script des moments qu'on va pouvoir mettre à jour. Je pensais à des exemples de textes de loi où quand on écrit la vidéo, ne sont pas encore passés, sont sur le point d'être votés. Et puis l'année suivante, on ne peut plus parler au futur puisque le texte de loi est déjà passé. Donc il va falloir retourner la vidéo pour pas que la personne qui va regarder ait l'impression de se dire mais attendez de quoi il parle, c'est une vieille vidéo, ils sont plus à la page, donc du coup est-ce que c'est vraiment valable ce que je regarde en ce moment. Donc ménager dans la construction dans l'écriture des tournures de phrases, des petits stratagèmes pour faire oublier la temporalité, en fait, le côté, si c'est le cas, si on conçoit qu'on va réutiliser d'une année pour l'autre une ressource, et éviter de dater au maximum la vidéo dans le propos, pour le jetable.
Moi, je souscris à ce qui vient d'être dit, il y a une péremption très rapide des contenus multimédia, peut-être plus que les contenus textuels. Par exemple, tous les diaporamas que je sonorisais étaient tous marqués de l'année durant laquelle ils étaient donc sonorisés. Et donc, même à 2 ans de distance, c'est un peu gênant de montrer des images de 2018 à des gens qui sont en 2020 en formation, par exemple. Ensuite, ça joue sur les formats. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que je sonorisais des diaporamas de 50-60 slides. Donc, j'étais 2 heures en studio. C'était un exercice extrêmement lourd. Et puis, si la diapositive 34 et 28 sont plus d'actualité, toute la bande-son est à reprendre. Donc là, les premiers enregistrements étaient quand même assez... au-delà de ce que, une fois qu'on a fini d'enregistrer... Plus personne ne touche l'ordinateur, on a peur de tout perdre. Et donc, il y a une espèce de crispation sur la manière dont on va saisir du contenu, et notamment sur la mise en ligne. Il y a aussi ces difficultés-là. Donc maintenant, moi, je fais des diaporamas d'une vingtaine de slides maxi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un diaporama pour la séquence mensuelle, les étudiants ont 4-5 diaporamas. Mais ça me permet de revenir très rapidement dessus. Et même chose sur les vidéos. Il y a des vidéos sur lesquelles on est obligé, sur des formats de 3-4 minutes, de considérer qu'elles sont périmées et qu'on ne peut plus les utiliser. Alors on a imaginé, à un moment donné, mettre des bandeaux. Ce que dit le formateur n'est plus à jour de la loi numéro 40. Et les gens savent plus ce qu'ils doivent écouter ou voir. C'est contre-productif. Donc ça ne marche pas. C'est un peu lourd parce que moi, sur les interviews, je trouve ça effectivement le mode le plus intéressant parce que c'est plus vivant. Sauf que quand on regarde bien les interviews qui sont faites à une caméra, ce qui n'est jamais le cas parce qu'au cinéma, on a toujours 2 caméras, en fait, la caméra est déjà sur celui qui va répondre à la question qu'on lui a posée. Et le temps de la question, parfois, moi, je pose des questions souvent longues, on voit les stigmates de concentration de la personne qui est comme ça, attend, et ça ne donne rien en termes d'image. Donc, c'est pour ça que les captures d'écran qu'on réalise ou les interviews sont souvent beaucoup plus... beaucoup plus vivante quand elle tourne sur deux caméras par entière. Ça, c'est... Mais je crois qu'on souffre vraiment d'une comparaison avec ce qui se trouve par ailleurs. Je souscris complètement à ce qui est écrit. Même si on se donne du mal, ce ne sera jamais peut-être aussi bien que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Mais je suis d'accord, la spontanéité qui est prouvée par... La petite phrase qui est mal dite ou le temps d'attente ou s'accroche sur un bout de phrase, en soi, je trouve que c'est mieux. On les garde maintenant, d'ailleurs, parce qu'on trouve que ça montre qu'au moins... Enfin, moi, le prompteur, je suis incapable de l'utiliser.
Ben, c'est bien.
Parce que j'ai l'impression que je me noie. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'une pièce qui se remplit d'eau et qui fait que... Et donc, le stress de ne pas pouvoir dire tout ce qui est à l'écran fait que j'ai très vite décidé de ne pas l'utiliser.
Oui, puis faut pouvoir se reposer aussi sur le montage. C'est-à-dire que si on est que sur une interview, le seul plan de la vidéo, ça va être effectivement la caméra braquée sur l'intervenant. Ça peut être délicat. Tandis que prévoir des plans d'illustration, que ça soit de l'animation graphique ou de la prise de vue, ça permet de grâce au montage audio, parce qu'en fait finalement quand on fait du montage vidéo, notre point de repère pour découper notre séquence, c'est l'audio, c'est notre piste son en fait. On voit à quel moment apparemment, la prise est bonne parce qu'on a une onde sur, qui est bonne et qui est constante. On sent que ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de reprise. Donc on se dit, bon, a priori, on est là-dessus. Et puis dedans, dans cette séquence qui va être bonne, va y avoir des petites accroches ou alors des bruits un peu...
Parasites
ou voilà, ou des petits ou des frottements de, ou juste un accroc dans la phrase et puis on se reprend. Mais si c'est couvert, si pendant ce temps-là on n'est pas tout le temps sur l'intervenant et qu'on a des images pour faire passer, ça permet de nous derrière en coulisses d'aller faire une coupe au bon moment et que finalement à l'audio on a l'impression d'avoir quelque chose de très fluide. Quand vous regardez des émissions qui sont enregistrées, on a toujours l'impression que les intervenants sont, enfin les personnes qui sont sur des plateaux ont une diction parfaite, ne se trompent jamais. C'est parce que derrière c'est simplement monté et que pendant qu'ils se trompent, la personne regarde ailleurs et puis on fait une coupe discrète.
Une question à distance.
Oui, c'était plus une remarque sur par rapport à l'obsolescence des vidéos. Oui. C'était aussi la possibilité de réaliser des vidéos très courtes avec des contenus unitaires et que chaque contenu étant indépendant, il peut être peut-être mis à jour plus facilement.
Le principe de la capsule.
La mise à jour la plus simple, c'est le texte. Ça, c'est quelque chose qui se réédite d'une année pour l'autre très facilement.
Ouais, donc ça, c'est une problématique de grain pédagogique. Et effectivement, plus le grain est petit, plus il est facile à mettre à jour et à faire évoluer. Il y a aussi un autre intérêt à la problématique du petit grain pédagogique, c'est que quand vous avez des grains petits, ils sont plus facilement réutilisables par quelqu'un d'autre. Si vous voulez mettre dans votre pédagogie quelque chose, moi, si par exemple, dans un de mes cours, j'ai envie de prendre un truc super intéressant qu'a dit Vincent... Je ne vais pas lui prendre une vidéo de 2 heures. S'il n'y a que 2 minutes que j'ai envie de passer à mes étudiants en disant « Écoutez-le, lui, il a raison. » Donc, le truc, c'est que plus le grain est petit, plus il est réutilisable pour les autres. Et je pense que c'est même plus important que la capacité à le faire évoluer pour soi. C'est aussi un problème qui avait été posé dans le cadre des universités numériques thématiques, où il y a 34 000 ressources en ligne, mais finalement, est-ce qu'elles servent beaucoup ? Pas à la hauteur de ce qu'elles ont nécessité comme investissement.
Oui.
Comme tu disais tout à l'heure pour le côté naturel et les accroches, plus le grain est petit, plus on a aussi une tendance à l'éparpillement et il est aussi important d'assurer une cohérence, un suivi. Voilà, donc c'est vraiment arriver à osciller entre ces deux pôles, parce que la capacité à raisonner, à s'imprégner d'un contexte et à poursuivre la réflexion, elle est aussi essentielle et elle manque énormément aux étudiants qu'on a aujourd'hui, qui ont des difficultés quand même de concentration et de capacité d'analyse plus large que justement sur des petits éléments épars. Donc c'est toute cette...
Et puis parfois les étudiants, Jean-Marc prendra le micro je crois après. Après les étudiants, il faut leur refaire une coquille un peu complète parce que cliquer 60 fois sur 2 grains de 2 minutes, il y a plus de chances qu'ils arrêtent de le faire à un moment que de les lancer des fois sur un ensemble de 2 heures. Même si après nous on a la possibilité. C'est ça, faire des playlists. Voilà.
Je ne sais pas si je peux me permettre. Bon, je me permets. Bien sûr. Sur l'obsolescence, donc effectivement, moi, j'ai fait pas mal de vidéos où, plutôt que d'écrire des modes opératoires, on filmait. Aujourd'hui, nos appareils ont changé, donc effectivement, les boutons sont plus au même endroit, donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, effectivement, c'est du contenu qui devient très rapidement obsolescent. Sur la production, il y a quand même beaucoup d'outils. Enfin, on n'est pas obligé de passer au CMU pour aller, c'est ce que tu disais. On peut quand même produire chez soi, chez soi ou dans son bureau, des vidéos avec les smartphones en particulier. Bon, il faut effectivement que ça bouge pas trop et que le son soit pas trop mauvais. Mais après, et puis c'est pareil, il y a des outils de montage qui sont grand public et qui sont assez accessibles. Par contre, c'est affreusement chronophage. Donc voilà, c'est pour ça que je revendique aussi le fait de pas forcément tout couper, parce que si on doit enlever tous les E, tous les blancs dans une séquence vidéo, on y passe vraiment beaucoup de temps. Le dernier point que je voulais faire, que je voulais dire, c'était les étudiants ont tous un smartphone et donc ont tous la possibilité de créer des propres vidéos. Je sais que moi, j'ai utilisé ça une fois pour évaluer des TP. Je leur ai demandé en fin de séance de se filmer en train de faire une des manipulations de TP et de déposer ça sur Moodle. Voilà.
Oui.
Ça peut.
On était orienté sur l'enseignant qui médiatise, mais
ça peut être l'étudiant qui médiatise ses compétences. Voilà.
Et puis, alors, j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure, j'ai même essayé de les regarder en ligne. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, parce que j'ai McKitchie qui me gêne, mais ce n'est pas lui. Un auteur américain qui a fait une étude longitudinale sur l'efficacité des vidéos en comparant des vidéos avec prompteur parfaite, sans hésitation, montée, et de la vidéo un peu plus nature, et la capacité à mémoriser est plus grande face à une personne qui est plus humaine, donc qui se trompe, qui hésite, qui parfois. Ouais. Ressemble finalement à l'enseignant dans sa salle.
Ouais.
Et si vous... ouais. le prompteur qui est subi, il n'y a pas pire en fait. Faut vraiment connaître son texte finalement, savoir ce qu'on dit et s'en servir comme un appui. Mais si on est obligé de cavaler derrière le prompteur, là pour le coup, ça va clairement se voir quoi. Mm. C'est un gros risque.
Si on regarde toutes les séries aujourd'hui, les séries télé, là, en fait, quand il n'y a plus jamais de plan fixe, il y a toujours un léger mouvement sur la personne. Je vous invite à regarder. Quand on s'en rend compte, c'est très agaçant. Mais en fait.
Très bien. On va arriver aux 13h30 qui marque la fin de notre midi pédago. Je vais remercier. Vincent Legrand, Hugo Drouin, donc Janine Berthier. Et puis aussi Thierry qui nous rend de bons services systématiquement pour aménager la salle. Il était soutenu en plus par Olivier. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un midi pédago qui se met en place, on a une mise en ligne qui nécessite de la technique. Hein, même si c'est invisible, c'est pratique. Intérêt des webconférences, c'est qu'elles sont enregistrées, ce qui permet de pouvoir revenir les réécouter, et peut-être aussi de pouvoir dire à d'autres personnes qui n'ont pas pu la suivre que c'est, ou si vous pouvez pas la visionner, elles sont captées et stockées sur la plateforme Pod pour être rediffusées. Donc notre prochain midi pédago est le 11 février, qui sera le dernier sur les compétences et qui s'intéressera à la question de la réflexivité, comment on peut rentrer dans une démarche de réflexivité. Ce matin, on a eu un atelier ici même avec l'essentiel de nos enseignants, maîtres de conférences, stagiaires, sur la question du dossier de valorisation pédagogique il est évident que je ne veux pas anticiper sur ce qui va être dit le mois prochain, mais il est évident que on ne pourra plus faire l'économie en tant qu'enseignant de s'interroger sur la façon dont on pratique nos cours, de s'interroger sur le développement de nos compétences et donc toute cette compétence qui est liée à la réflexivité, à l'évaluation de nos enseignements, à l'échange avec les collègues, sur nos pratiques, à la perspective de publier des choses sur la façon dont on travaille, d'être un praticien chercheur et un chercheur praticien. Tout ça sera l'objet de notre prochain midi pédago. Donc merci de votre venue et puis donc à très bientôt. Et puis encore une bonne année, parce que c'est encore bon. Alors, merci. Un des applaudissements.